Chapitre 3 D'un tigre, d'un crocodile et du capitaine Corcoran. Peut-être avez-vous entendu parler, messieurs, du célèbre Robert Surcouf, de Saint-Malo. Son père était le propre neveu du beau-frère de mon bisaïeul, le très illustre et très savant Yves Quaterkem, aujourd'hui membre de l'Institut de Paris, et qui a découvert, comme chacun sait, le moyen de diriger les ballons, est mon cousin Germain. Mon grand-oncle Alain Corcoran, surnommé Barberousse, était au collège en même temps que feu monsieur le vicomte François de Chateaubriand, et eut l'honneur, le 23 juin 1782, d'appliquer son poing fermé sur l'œil du vicomte, pendant la récréation, entre 4h30 et 5h de l'après-midi. Vous voyez, messieurs, que je suis homme de bonne maison, et que les Corcorans peuvent lever haut la tête et regarder le soleil en face. De moi-même, j'ai peu de choses à dire. Je suis né une ligne de pêche à la main. Je montais seul dans la barque de mon père à l'âge où les autres enfants connaissent à peine l'alphabet. Et quand mon père eut péri en portant secours à un bateau pêcheur en détresse, je m'embarquai sur la chaste Suzanne de Saint-Malo, qui allait pêcher la baleine vers le détroit de Béring. Après 3 ans de course vers le pôle Nord et le pôle Sud, je passai de la chaste Suzanne sur la belle Émilie, de la belle Émilie sur le fier Artaban, et du fier Artaban sur le fils de la tempête, un brick ailé qui file ses 18 nœuds à l'heure, toute voile dehors. « Monsieur, interrompit le secrétaire perpétuel de l'Académie, vous nous avez promis l'histoire de Louison. »«
Prenez patience, répliqua Corcoran, la voici. »
Mais un bruit lointain de tambour lui coupa la parole. On battait le rappel.
« Qu'est ceci ? » demanda le président avec inquiétude.
« Je devine, répondit Corcoran.
« C'est le portier, effrayé, qui a barricadé la porte et qui est allé demander du secours au poste voisin. »
Poltron.
Parbleu, dit un académicien. Il aurait bien mieux fait de laisser la porte ouverte. Je ne perdrai pas mon temps à écouter l'histoire de Louison.
Attention, dit le capitaine. Voici qui devient sérieux. On sonne le tocsin. Effectivement, le tocsin retentit au clocher le plus voisin et se communiqua bientôt à tous les autres avec la rapidité de la flamme poussée par le vent.
Bombé mitraille, dit en riant le capitaine.
« L'affaire sera chaude, ma pauvre Louison, car je vois qu'on va t'assiéger comme une place forte. » Pour revenir à mon histoire, messieurs, c'était vers la fin de l'année 1853. J'avais fait construire le Fils de la Tempête à Saint-Nazaire, et je venais de décharger dans le port de Batavia 700 ou 800 barriques de vin de Bordeaux. L'affaire était bonne. Donc, content de moi, de mon prochain, de la divine providence et de l'état de mes affaires, je me résolus un jour de prendre un plaisir qu'on n'a pas souvent sur mer. C'est celui de la chasse au tigre. Vous n'ignorez pas, messieurs, que le tigre, qui est d'ailleurs le plus bel animal de la création, regardez Louison, a reçu malheureusement du ciel un appétit extraordinaire. Il aime le bœuf, l'hippopotame, la perdrix, le lièvre. Mais ce qu'il préfère à tout, c'est le singe, à cause de sa ressemblance avec l'homme. Et l'homme, à cause de sa supériorité sur le singe. De plus, il est délicat, il ne mange jamais deux fois du même morceau. Et si, par exemple, Louison avait dévoré à déjeuner une épaule de monsieur le secrétaire perpétuel, rien ne pourrait l'obliger à goûter de l'autre épaule à l'heure du lunch. Elle est friande comme un chat d'évêque. Ici, le secrétaire fit la grimace.
« Mon Dieu, monsieur, continua Corcoran. Moi, je sais bien que Louison aurait tort et que les deux épaules se valent, mais c'est son caractère, on ne se refait pas. »
Je partis de Batavia, portant mon fusil sur l'épaule et chaussé de grandes bottes, comme un Parisien qui va chercher un lièvre dans la plaine Saint-Denis. Mon armateur, monsieur Cornelius von Crittenden, voulait me faire accompagner par 2 malais chargés de dépister le tigre et de se faire manger à ma place, si par hasard le tigre était plus habile que moi. Vous entendez bien que moi, René Corcoran, dont le bisaïeul était l'oncle du père de Robert Surcouf, je me suis mis à rire en entendant cette proposition. On est mal loin ou l'on n'est pas mal loin, n'est-ce pas? Or, je suis malouin. Et de mémoire d'homme, on n'a jamais entendu parler d'un malouin mangé par un tigre. Du reste, la réciproque est vraie. L'on ne sert pas souvent de tigre sur la table des malouins. Cependant, comme après tout, il me fallait des aides pour transporter ma tente et mes provisions, les 2 malais me suivirent, conduisant un chariot.
Je rencontrai d'abord, à quelques lieues de Batavia, une rivière assez profonde qui traversait la forêt des singes, aussi grande et plus peuplée d'animaux carnassiers que les départements mêmes de la Seine. C'est dans ces épais fourrés qu'on trouve le lion, le tigre, le boa constricteur, la panthère et le caïman, les plus féroces de toutes les bêtes de la création. L'homme seul excepté, qui tue sans besoin et pour le plaisir de tuer. Dès qu'il fut 10 heures du matin, la chaleur devint si forte que les Malais eux-mêmes, accoutumés pourtant à leur propre climat, demandèrent grâce et se couchèrent à l'ombre. Pour moi, je m'étendis dans le chariot, la main sur ma carabine, car je craignais quelque surprise, et dormis profondément. Un spectacle étrange m'attendait au réveil. La rivière sur le bord de laquelle j'avais établi mon campement était appelée Mackintosh, du nom d'un jeune Écossais qui était venu chercher fortune à Batavia. Un jour, comme il la remontait en bateau avec quelques amis, un coup de vent jeta son chapeau dans la rivière. Mackintosh étendit le bras pour le ressaisir, mais au moment où il le touchait, une gueule effroyable et qui semblait appartenir à quelque tronc d'arbre flottant sur l'eau se referma sur sa main, la saisit et l'entraîna au fond de l'eau. Cette gueule était celle d'un caïman qui n'avait pas déjeuné. On fit d'inutiles efforts pour repêcher Mackintosh et pour le venger. La Providence se chargea de châtier le meurtrier. La longue-vue de l'Écossais pendait en bandoulière sur sa poitrine. Soit que le caïman fût trop vorace ou trop affamé pour bien distinguer ce qu'il avalait, la longue-vue de Mackintosh se mit, à ce qu'il paraît, en travers du gosier de l'amphibie, de manière qu'il ne put ni avaler tout à fait cet infortuné jeune homme, ni remonter du fond de l'eau à la surface pour respirer plus à l'aise, et qu'il mourut victime de sa gloutonnerie. On le retrouva quelques jours après, noyé, étendu sur le rivage, et n'ayant pas lâché Mackintosh. Monsieur, interrompit le président de l'Académie, il me semble que vous vous écartez sensiblement de votre sujet. Vous nous aviez promis de nous donner l'histoire de Louison, et non pas celle de la longue-vue de Monsieur Mackintosh. Monsieur le Président, répliqua Corcoran avec déférence, je reviens à Louison. Il était donc à peu près 2 heures de l'après-midi lorsque je fus éveillé tout à coup par des cris horribles. Je me mets sur mon séant, j'arme ma carabine, et j'attends avec patience l'ennemi. Ces cris étaient poussés par mes deux Malais qui accouraient tout effrayés pour chercher un asile sur le chariot. Maître, maître, dit l'un d'eux, voici le seigneur qui s'avance, prenez garde. Quel seigneur, dis-je. Le seigneur Tigre. Eh bien, il m'épargnera la moitié du chemin. Voyons donc ce terrible seigneur. Tout en parlant, je sautai à terre et j'allai à la rencontre de l'ennemi. On ne le voyait pas encore, mais on pouvait deviner son approche à la frayeur et à la fuite de tous les autres animaux. Les singes se hâtaient de remonter sur les arbres, et du haut de ses observatoires, lui faisaient des grimaces pour le braver. Quelques-uns même, plus hardis, lui jetaient à la tête des noix de coco. Pour moi, je ne devinais la direction dans laquelle il marchait qu'au bruit des feuilles qu'il foulait et froissait sous ses pieds. Peu à peu, ce bruit se rapprocha de moi, et comme le chemin était à peine assez large pour laisser passer 2 chariots, je commençais à craindre de l'apercevoir trop tard et de n'avoir pas le temps de l'ajuster, car l'épaisseur du fourré le cachait entièrement. Heureusement, je reconnus bientôt qu'il devait passer près de moi, mais sans me voir, et qu'il allait tout simplement boire dans la rivière. Enfin, je l'aperçus, mais seulement de profil. Sa gueule était ensanglantée, il avait l'air satisfait, et les jambes écartées comme un rentier qui va fumer son cigare sur le boulevard des Italiens après un bon déjeuner. À 10 pas de moi, le bruit sec du chien de ma carabine que j'armais parut lui causer quelque inquiétude. Il tourna la tête à demi, m'aperçut à travers un buisson qui nous séparait, et s'arrêta pour réfléchir. Je le suivais de l'œil. Mais pour le tuer d'un coup, il aurait fallu l'ajuster au front ou au cœur, et il s'était posé de 3/4, comme un tigre de qualité qui fait son portrait par le photographe. Bon, quoi qu'il en soit, la divine providence m'épargna ce jour-là un meurtre déplorable, car ce tigre, ou plutôt cette tigresse, n'était autre que ma belle et charmante amie, cette douce Louison que vous voyez et qui nous écoute d'une oreille si attentive. Louison, enfin je puis bien à présent lui donner ce nom, avait déjeuné, comme je vous l'ai dit, et ce fut un grand bonheur pour moi et pour elle. Elle ne pensait qu'à digérer en paix. Aussi, après m'avoir regardé obliquement pendant quelques secondes, tenez, à peu près comme elle regarde à présent le secrétaire perpétuel. Ici, le secrétaire changea de place et alla s'asseoir derrière le président. Elle continua lentement son chemin et s'avança vers la rivière qui coulait à quelques pas de là. Tout à coup, je vis un curieux spectacle. Louison, qui marchait jusque-là d'un air indifférent et superbe, ralentit tout à coup son pas, et allongeant son beau corps, si long déjà, elle s'avança en rasant le sol et en prenant les plus grandes précautions pour n'être ni vue ni entendue auprès d'un large et long tronc d'arbre qui était étendu sur le sable au bord de la rivière McIntosh. Je marchais derrière elle, la carabine à l'épaule, toujours prête à tirer, attendant une occasion favorable. Mais je fus bien étonné. En approchant du tronc d'arbre, je vis qu'il avait des pattes et des écailles qui brillaient au soleil. Les yeux étaient fermés et la gueule était ouverte. C'était un crocodile qui dormait sur le sable, au soleil comme un juste. Aucun rêve ne troublait ce tranquille sommeil. Il ronflait paisiblement, comme ronflent les crocodiles qui n'ont pas de mauvaises actions sur la conscience. Ce sommeil, cette pose pleine de grâce et d'abandon, je ne sais quoi encore, probablement quelque inspiration de l'esprit malin, tout parut tenter Louison. Je vis ses lèvres s'écarter. Elle riait comme un jeune polisson qui va jouer un bon tour à son maître d'école. Elle avança doucement la patte et l'enfonça tout entière dans la gueule du crocodile. Elle essayait d'arracher la langue du dormeur pour la manger en guise de dessert, car Louison est très friande. C'est le défaut de son sexe et de son âge. Mais elle fut bien sévèrement punie de sa mauvaise pensée. Elle n'eut pas plutôt touché la langue du crocodile que la gueule de celui-ci se referma. Il ouvrit les yeux, de grands yeux couleur vert de mer, que je vois encore, et regarda Louison d'un air de surprise, de colère et de douleur qu'il est impossible de peindre. De son côté, Louison n'était pas à la noce. La pauvre chérie se débattait comme un diable entre les dents aiguës du crocodile. Heureusement, elle serrait si fort la langue de celui-ci avec ses griffes que le malheureux n'osait user de toutes ses forces et lui couper la patte, comme il l'aurait fait aisément si sa langue avait été libre. Jusque-là, le combat était égal, et je ne savais pour qui faire des vœux, car enfin, l'intention de Louison n'était pas bonne, et sa plaisanterie était fort désagréable pour son adversaire. Mais Louison était si belle. Elle avait tant de grâce dans les formes, tant de souplesse dans les membres, tant de variété dans les mouvements. Elle ressemblait à une jeune chatte, à peine en sevrage, qui joue au soleil sous les yeux de sa mère. Mais hélas, ce n'était pas pour jouer qu'elle se tordait sur le sable en poussant des cris rauques qui faisaient retentir la forêt. Les singes perchés en sûreté sur les cocotiers regardaient en riant ce terrible combat. Les babouins montraient Louison au macaque et lui faisaient le petit doigt posé sur le nez et la main déployée en éventail, le geste moqueur des gamins de Paris. L'un d'eux même, plus hardi que les autres, descendit de branche en branche jusqu'à 6 ou 7 pieds de terre et là, se suspendant par la queue, il osa du bout de ses ongles gratter légèrement le mufle de la redoutable tigresse. À cette plaisanterie, tous les babouins poussèrent de grands éclats de rire, mais Louison fit un geste si prompt et si menaçant que le jeune babouin qui l'avait essayé n'osa pas la recommencer, et se tint pour très heureux d'avoir échappé aux dents meurtrières de son ennemi. Cependant, le crocodile entraînait la pauvre tigresse dans la rivière. Elle leva les yeux au ciel comme pour implorer sa pitié ou le prendre à témoin de son martyre, et les abaissa sur moi par hasard. Quels beaux yeux! Quel mélancolique et doux regard où se peignaient toutes les angoisses de la mort! Pauvre Louison! Au même instant, le crocodile plongea, entraînant Louison sous l'eau. À cette vue, je me décidai. Le bouillonnement de la rivière indiquait les efforts de Louison pour se dégager. J'attendis pendant une demi-minute, la carabine à l'épaule, le doigt sur la détente, l'œil fixe. Heureusement, Louison, qui est un animal, si vous voulez, qui n'est pas une bête, s'était dans son désespoir accroché fortement à un tronc d'arbre qui pendait sur le bord de l'eau. Cette précaution lui sauva la vie. À force de se débattre, elle parvint à élever sa tête au-dessus de la rivière et de se tirer par là du danger le plus pressant, celui de se noyer. Peu à peu, le crocodile lui-même sentit le besoin de respirer et, moitié de gré, moitié de force, revint avec elle au rivage. C'est là que je l'attendais. En un clin d'œil, son sort fut décidé. L'ajuster, tirer mon coup de carabine, lui envoyer une balle dans l'œil gauche et lui briser le crâne. Ce fut l'affaire de 2 secondes. Le malheureux ouvrit la gueule et voulut gémir. Il battit le sable de ses 4 pieds et expira. La tigresse, plus prompte encore que moi, avait déjà retiré de la gueule de son ennemi sa patte à demi déchirée. Son premier mouvement, je dois le dire, ne fut pas un témoignage de confiance ou de reconnaissance. Peut-être pensait-elle avoir plus à craindre de moi que du crocodile. Elle essaya d'abord de fuir. La pauvre bête, réduite à 3 pattes et presque estropiée de la 4e, ne pouvait pas aller bien loin. Au bout de 10 pas, je l'atteignis. Je vous avouerai, messieurs, que je me sentais déjà beaucoup d'amitié pour elle. D'abord, je lui avais rendu un grand service, et vous savez qu'on s'attache bien plus à ses amis par les services qu'on leur rend que par ceux que l'on reçoit d'eux. De plus, elle me paraissait d'un très bon caractère, car la plaisanterie même qu'elle avait voulu faire au crocodile indiquait un naturel porté à la joie. Or, la joie, vous le savez, messieurs, quand elle n'est pas feinte, est le symptôme d'un bon cœur et d'une bonne conscience. Enfin, j'étais seul et en pays étranger, à 5 000 lieues de Saint-Malo, sans amis, sans parents, sans famille. Il me sembla que la société d'un ami qui me devrait la vie, cet ami eût-il 4 pattes, des griffes redoutables et des dents terribles, vaudrait toujours mieux que rien. Avais-je tort? Non, messieurs, et la suite l'a bien prouvé. Mais pour ne pas anticiper sur mon histoire, je dois dire que Louison ne me parut pas avoir besoin d'un ami autant que moi. Quand je m'approchais d'elle, je la vis, ne pouvant se soutenir qu'avec peine sur 3 pattes, se coucher sur le dos et là, attendre mon attaque en désespéré. Elle poussait le cri rauque qui lui est habituel quand elle se met en colère, elle grinçait des dents, elle me montrait ses griffes et semblait prête à me dévorer, ou tout au moins à vendre chèrement sa vie. Mais je sais apprivoiser les êtres les plus féroces, je m'avançais donc d'un air paisible. Je déposai ma carabine sur le sable, à portée de la main, je me penchai sur la tigresse, je lui caressais doucement la tête comme à un enfant. D'abord elle me regarda obliquement comme pour m'interroger, mais quand elle vit que mes intentions étaient bonnes, elle se remit sur le ventre, lécha doucement ma main et d'un air triste me présenta sa patte malade. Je sentis à son tour le prix de cette marque de confiance, et je regardai cette patte avec soin. Rien n'était brisé. Les dents du crocodile n'avaient même pas pénétré fort avant, à cause de la manière dont Louison lui serrait la langue. Je me contentai de laver la plaie avec soin, je tirai de ma carnassière un flacon d'alcali, dont je versai 1 ou 2 gouttes sur la blessure, et je fis signe à Louison de me suivre. Soit reconnaissance, soit désir d'être pansée avec soin, elle se laissa conduire et me suivit jusqu'au chariot où les 2 Malais qui m'accompagnaient faillirent mourir de peur en l'apercevant. Ils sautèrent à bas du chariot et rien ne put les décider à y remonter. Le jour suivant, nous retournâmes à Batavia. Cornelius van Crittenden fut bien étonné de me voir arriver avec ma nouvelle amie, à qui j'avais donné tout de suite le nom de Louison et qui me suivait dans les rues comme un jeune chien. 8 jours après, je levai l'ancre, emmenant la tigresse, qui n'a jamais cessé de me tenir fidèle compagnie. Une nuit, même dans les parages de Bornéo, elle m'a sauvé la vie. Mon brick fut surpris par un temps calme à 3 lieues de l'île. Vers minuit, comme mon équipage composé de 12 hommes seulement s'était endormi, une centaine de pirates malais monta tout à coup à bord et jeta à la mer le matelot qui tenait le gouvernail. Ce meurtre fut commis si promptement que personne n'entendit le moindre bruit et ne put défendre le malheureux matelot. De là, on courut à la porte de ma chambre pour l'enfoncer. Mais Louison dormait à l'intérieur, au pied de mon lit. Elle s'éveille au bruit et commence à grogner d'une manière terrible. En 2 secondes, je fus debout, un pistolet dans chaque main, ma hache d'abordage entre les dents. Au même instant, les pirates enfoncent la porte et se précipitent dans ma cabine. Le premier qui s'avança eut la cervelle brisée d'un coup de pistolet. Le deuxième tomba frappé d'une balle. Le troisième fut jeté à terre par Louison qui, d'un coup de dent, lui brisa la nuque. Je fendis la tête au 4e d'un coup de hache et je montai sur le pont en appelant mes matelots à l'aide. Pendant ce temps, Louison faisait merveille. D'un bond, elle renversa 3 Malais qui voulaient me poursuivre. D'un autre bond, elle fut au milieu de la mêlée. Ses mouvements avaient la promptitude de l'éclair. En 2 minutes, elle tua 6 des pirates. Les ongles de ses griffes pénétraient comme des pointes d'épée dans la chair de ces malheureux. Quoiqu'elle perdît son sang par 3 blessures, elle n'en paraissait que plus ardente à la bataille et me couvrait de son corps. Enfin, mes matelots arrivèrent, armés de revolvers et de barres de fer. Dès lors, la victoire fut décidée. 20aine de pirates furent jetés à l'eau, les autres s'y jetèrent eux-mêmes pour regagner leur barque à la nage, et nous ne perdîmes qu'un seul homme, celui qui avait été égorgé d'abord. Je vous laisse à deviner si Louison fut bien pensée. Depuis cette nuit-là où elle m'avait payé sa dette, entre elle et moi, on s'est à la vie et à la mort. Nous ne nous quittons jamais. Je vous prie donc, messieurs, d'excuser la liberté que j'ai prise de l'amener jusqu'ici. Je l'avais laissée dans l'antichambre, mais le portier l'aura vue, aura pris peur, aura fermé la porte et fait sonner le tocsin pour venir à votre secours. « Tout ceci, monsieur, dit doucement le président, N'empêche pas que par votre faute, ou par la faute de Mademoiselle Louison et du portier, nous avons passé l'après-midi dans la société d'une bête féroce, et que notre dîner en sera refroidi. Ici, monsieur le président de l'Académie des sciences de Lyon fut interrompu par un grand bruit. On entendit les tambours battre, et l'on mit la tête aux fenêtres.
« Dieu soit loué !» s'écria le secrétaire perpétuel. « Voici la force publique qui arrive. Nous touchons à la délivrance. »
En effet, 3 000 personnes remplissaient la place et les rues avoisinantes. Une compagnie d'infanterie était à l'avant-garde et chargeait ses fusils en face du palais de l'Académie. Tout à coup, un commissaire de police, ceint d'une écharpe tricolore, s'avança, fit signe au tambour de se taire et dit d'une voix forte
« Au nom de la loi, rendez-vous !»«
Monsieur le commissaire !»
cria le président par la fenêtre.
« Il ne s'agit pas de nous rendre, mais d'ouvrir la porte !»
Le commissaire fit signe alors à des ouvriers serruriers qu'il avait amenés par précaution de débarrasser la porte d'entrée de tous les obstacles que le portier de l'Académie avait accumulés pour barrer le passage à Louison. Quand ces ordres eurent été exécutés, l'officier qui commandait la compagnie d'infanterie cria
« Apprêtez vos armes, on joue !»
et se tint prête à faire fusiller Louison dès qu'elle paraîtrait.
« Messieurs, dit Corcoran aux académiciens, vous pouvez sortir. Quand vous serez en sûreté, je sortirai moi-même du palais et Louison ne quittera la place qu'après moi. N'ayez donc aucune crainte. »
« Surtout, capitaine, pas d'imprudence,
dit le président en lui serrant la main et en lui disant adieu. Les académiciens se hâtèrent de sortir. Louison les regardait d'un œil étonné et paraissait prête à s'élancer sur leurs traces, mais Corcoran la retint. Aussitôt qu'ils furent tous deux seuls dans le palais, Corcoran fit signe à la tigresse de rentrer dans la salle des séances et s'avança sur le perron pour parler au commissaire.
« Monsieur le commissaire, dit-il, je suis prêt à emmener mon tigre paisiblement, si l'on veut bien me promettre de ne pas lui faire de mal. Nous irons droit au bateau à vapeur qui est sur le Rhône, et je m'engage à enfermer Louison dans ma cabine de manière qu'elle ne pourra gêner ni effrayer personne.
« Non, non, à mort le tigre !»
cria la foule, qui se réjouissait déjà à la pensée de voir une chasse au tigre.
« Écartez-vous, monsieur !» cria le commissaire.
Corcoran essaya un nouvel effort, mais rien ne put persuader l'inflexible magistrat. Alors, le malouin parut prendre son parti. Il se pencha vers Louison et l'embrassa tendrement. On eût dit qu'il lui parlait à l'oreille.
« Voyons, dit l'officier, toutes ces tendresses sont-elles bien finies ?»
Corcoran le regardait d'un air qui n'annonçait rien de bon.
« Je suis prêt, dit-il enfin.
Mais ne tirez pas, je vous prie, avant que je sois hors de portée. Je ne veux pas avoir la douleur de voir mon unique ami assassiné sous mes yeux. » On trouva sa demande raisonnable et quelques personnes commencèrent même à s'intéresser au sort de Louison. Corcoran eut donc toute liberté de descendre l'escalier. Louison, tapi derrière la porte de la salle, le regardait s'éloigner mais ne montra pas la tête et semblait soupçonner le danger qui la menaçait. Il y eut un moment de terrible attente. Tout à coup, Corcoran, qui avait déjà dépassé la compagnie d'infanterie, se retourna brusquement et cria 3 fois
« Louison, Louison, Louison !»
Et à ce cri, à cet appel, le tigre fit un bond terrible et tomba au pied de l'escalier. Avant que l'officier eût donné l'ordre de faire feu, Louison s'élança d'un second bond par-dessus la tête des soldats et se mit à suivre au grand trot le capitaine Corcoran.
« Tirez, tirez donc !»
cria la foule épouvantée. Mais l'officier fit désarmer les fusils. Pour atteindre le tigre, on aurait tué ou blessé 50 personnes. On se contenta donc de suivre Corcoran et Louison jusqu'au port, où ils s'embarquèrent paisiblement, suivant la promesse du capitaine. Le lendemain, le capitaine Corcoran arriva à Marseille et attendit les instructions de l'Académie des sciences de Lyon. Ces instructions, rédigées par le secrétaire perpétuel lui-même, étaient dignes de passer à la postérité la plus reculée. Mais un malheureux accident obligea plus tard le capitaine à les jeter au feu. De sorte qu'on est réduit à en deviner le contenu par le récit même des actions du célèbre malouin. Au reste, il suffira de dire qu'elles étaient dignes de la savante académie qui les avait envoyées et de l'illustre voyageur à qui elles étaient destinées.